Bon, alors on n'avait pas fini déjà la page de la dernière fois, donc
On n'avait même pas commencé la page de la dernière fois.
l'esprit est semblable à un peintre habile, c'est
Ouais,
ça?
non, ouais.
On l'avait pas commencé.
Non.
En fait, on s'était arrêté.
On avait beaucoup travaillé Chinen sans zen.
Voilà, hein, donc sur lequel on va revenir, parce que je pense que c'est quand même intéressant. Alors, je ne sais pas si tu connais. Il y a parce qu'on ne peut pas comprendre, à mon avis, Ichinen Sanzen sans avoir une réflexion sur le taoïsme, et notamment le principe d'unité, hein, et de un seul cœur. Non, Yi Shin en chinois, Yi Shin, et Shin, Ichin en japonais. Hein. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de similitudes. Alors bon, bien sûr, c'est un peu aller à contrario de ce que dit Nichiren, puisque lui, il dit, oui, on a copié le principe d'Ichinen Sanzen, les autres écoles, ou les taoïstes. Mais bon, il a sa vision, lui, d'un moine japonais au XIIIe siècle, mais il n'en est pas moins vrai que les influences taoïstes dans la pensée bouddhiste chinoise, et à mon avis, est incontournable. On peut pas faire l'économie de ça. Et donc, dans le principe d'unité, donc Ichi, le principe d'unité est intéressant parce que c'est un trait horizontal, hein, en chinois. Donc déjà, vous savez, il y a une règle dans les idéogrammes. Le premier trait. Déjà, le premier trait, c'est un point. Hein. Ensuite, c'est le trait horizontal. Ensuite, c'est le trait vertical. C'est les trois premières lois de la graphie chinoise. Et ensuite, hein, là, on a le dais un peu impérial, vous voyez, hein, dans le. Et ça, c'est l'idéogramme du temps, ima, hein. En japonais, c'est vraiment le ici maintenant. Et en dessous, on a l'idéogramme kokoro, cœur, voilà, ichinen, hein. Ichinen. Mais si on revient à l'origine, on a ichi, shin. Ou Yi Shin. Hein? Ichi ou I. Ça va être contracté. Hein? Ichi Shin. Un seul cœur. Hein? Donc, la vision de Tendai, donc, elle est intéressante parce qu'il va créer le Nen, la notion d'immédiateté du cœur. Hein? Qui est déjà une vision. Alors, le cœur, ça peut être déjà. C'est ce qui apparaît, hein, ici maintenant. Ça peut être aussi quelque chose qui a à voir avec la synchronicité, hein, jungienne, un peu. Hein. Ce qui apparaît maintenant, donc, ce qui apparaît maintenant, c'est Sanzen, hein, donc on va avoir le chiffre 3. Hein. Sanzen. 3000. 3000 possibles. Je sais pas si. Ça, c'est l'idéogramme de 1000. Hein, 3000. C'est 3000. Il n'y a pas monde, quoi que ce soit, c'est. Hein, on ne sait pas, c'est 3000. 3000 possibles, ce que vous voulez, hein, font apparaître un nen. Un N, donc, c'est l'esprit de l'instant. Qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit dans un instant, hein? Donc, ça renvoie à Ichin. Mais Ichin, il est trop vaste, puisque le cœur est un, donc ça veut dire énormément de choses. Mais ça nous renvoie au principe d'unité. Le 1, Dans la pensée taoïste, il appelle le 2, le 3, le 4, puis les 10 000 êtres, voyez, hein. À partir du 1, hein, le 1 crée le 2, hein. C'est ce que dit le Tao Te Ching, hein. Le 2 a créé le 3, et le 3 a créé les 10 000 êtres. On revient un petit peu à quelque chose qui est assez similaire à ça. Hein. L'unité du cosmos, donc, c'est le chi, hein, c'est l'énergie. Le 2, c'est le concept de yin-yang, hein, c'est-à-dire la position binaire de toute forme de vie. Hein. Le 3, bah, c'est tout ce qui est création. Et 3, hein, papa, maman, l'enfant. Le 3, c'est ce qui tient, c'est ce qui va donner corps. Donc, dans le Tai Chi, hein, le symbole du yin et du yang, vous avez un côté yin, un côté yang, un côté lumière, un côté ombre. Et vous avez donc le 1 ici. Enfin, le 1, c'est le cercle aussi, hein, c'est ce qui entoure. Le principe d'unité, c'est le rond. Le 1, le yang, le 2, le yin, et le 3, c'est le trait qui sépare, vous voyez. Là, on a le 3. C'est-à-dire que tout contient tout. Le 1 contient le 2, le 2 contient le 3, et le 3, à partir du 3, eh bien, on va avoir la multiplication. La dissociation, la différenciation. Et on a les 10 000. Hein. Les 10 000 êtres, les 10 000 chars, on va retrouver. Donc c'est Jiu-Zen, si vous voulez, en japonais. Donc, on avait vu la dernière fois donc, les 10 états mentaux ou psychiques. Comment tu dis les 10 états, les 10 mondes d'état, c'est ça?
Oui, hein, les 10 mondes d'état.
10 mondes d'état. Oui, l'idée du domaine. Ce sont des états psychologiques. Et. Donc, 10 états. 10 états monde. Qui se contiennent mutuellement, hein, Jiga et Gobu.
Chaque état contient.
Chaque
les 10
état
états.
Contient les 10 autres, c'est un concept holographique. Hein. Donc dans chaque état, donc s'il nous fait 100, hein, plus 10 incités, alors. Ça c'est littéral, sinon modalité d'expression de vie, hein, ou dit modalité. Donc là on arrive à 1000, hein, plus les 3, comme on dit, c'est quel, les 3 différenciations,
hein,
3 sphères de différenciation. Donc, là, s'il veut nous renvoyer au Hinayana, hein, c'est les 5 Gohan ou les 5 agrégats. Hein. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une vie individuelle, il faut qu'il y ait agrégation de 5 caractères qui vont constituer la personnalité. Hein. Donc, c'est ce qui caractérise la personne, si vous voulez. Donc, l'agrégat, quand il y a vie, ces 5 dimensions sont agrégées. Quand il y a mort, c'est désagrégé, tout simplement. Ensuite, la sphère sociale, on va dire. C'est-à-dire la relation de la personne à l'autre. et la sphère, on va dire, naturelle. Donc 1, 2, 3, vous avez 1000 ici, vous avez les 3000. Maintenant, quand ça va émerger, justement, si vous voulez, il faut bien voir que chez Tendai, le principe d'Ichinen Sanzen, c'est un principe de méditation. C'est comment on va faire émerger notre caractère éveillé dans un instant. C'est ça le propos, parce que le reste, ce n'est pas intéressant. Si c'est pour arriver dans l'état de souffrance, d'enfer maximum, on n'est pas très intéressé. Hein? Le principe, c'est pour ça que deux conceptions, Ji, Ri, hein? Pour Tendai, le principe théorique, Ri no Ichinen Sanzen, hein? Donc ça, Ri comme théorique, et chez Nichiren, Ji no Ichinen Sanzen. C'est la mise en action, hein, du principe d'Ichinen Sanzen dans la vie quotidienne. Mais quand même, que ce soit Nichiren ou Tendai, les deux, ça apparaît dans la méditation. C'est un principe de méditation. On sait qu'il y a 3000 possibles. Comment faire jaillir l'état, notre état le plus pur d'éveillé dans un instant, dans un nen, hein. Comment le stimuler? C'est pour ça que vous avez le petit Makashikan, vous avez le grand Makashikan, enfin, Mo Che Kwang, hein, qui sont des traités de méditation, hein, qui sont repris dans différentes formes de bouddhisme et de Mahayana, hein, dont le bouddhisme zen, hein, c'est inspiré aussi. Ça va pour les 3000, hein? Donc, on avait lu jusqu'à quel point. Ah, voilà, c'est ça. Pendant 50 ans, le principe d'Ichinen Sanzen ne se trouve que dans l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus, caché dans les profondeurs du chapitre Joryo. C'est ça, en gros, hein, ce qu'on avait vu. Hein.
Et ça, c'est avant.
C'est même avant, mais on.
Ce que tu as donné, oui, c'est sur les anciennes.
Oui, alors, c'est. Voilà. J'ai des feuilles, si vous voulez, peut-être, qui me. Ce qu'il faut voir, c'est que pour que le principe d'Ichinen Sanzen puisse apparaître, il faut qu'on ait la notion des 10 états-mondes et des 10 modalités ou des 10 incités. Si, tant qu'on ne les a pas, on les a dans le chapitre 2, on a les 10 modalités. Nyoseso, Nyosesho, Nyoseta, Nyoselik, Nyosesa, Nyosei, Nyosen, Nyoseon, Matsuku, Kyoto. Ça, c'est important. Dans la tradition bouddhique, on avait déjà six mondes d'état, hein, les six premières voies, et s'ajoutaient les quatre à un autre. D'autres moments, il y avait les quatre nobles voies, hein, ou sentiers, qui étaient l'état d'auditeur, Shravakas, hein, l'état de Shomon, c'est... Ah oui, les pratiques à Bouddha, c'est ça. Donc ça, on les a aussi dans le début du Oben, hein, du moyen. Bodhisattva et Bouddha. Donc ça, c'est la parabole des trois chariots. De la maison en feu.
Dans le chapitre... Hein.
Voilà, c'est à partir de là. Donc on voit bien que dans le Sutra de Lotus, va se constituer à peu près... toutes ces références qui vont permettre de créer le principe d'Ichinen Sanzen. Le principe d'Ichinen Sanzen, il est chinois typiquement, parce que le jeu, si vous voulez, sur les chiffres et sur le chiffre 10, il est typique de la culture chinoise. Ce n'est pas possible en sanskrit. D'ailleurs, en sanskrit, ça n'existe pas. C'est Kumarajiva qui va donner le chiffre 10 pour les incités, pour les modalités. Ça n'existe pas dans le Sutra du Lotus sanskrit. Il y en a 6, je crois. Donc, parce que c'est une autre culture. La culture chinoise, une culture presque, par le Yiking notamment, une culture binaire, c'est-à-dire informatique. C'est-à-dire, c'est avec le yin et le yang, avec le trait continu et le trait discontinu, ils vont créer... pratiquement la pensée informatique. Hein, déjà, dans la tradition, ils avaient ça. C'est ça qui est magnifique. Hein, donc le trigramme, on va avoir ça, si vous voulez. Le trait yang, c'est un trait continu. Le trait yin est un trait discontinu. Hein? Donc ça, c'est un digramme. Donc on va avoir comme possible le yang absolu, le yin absolu qui va être deux traits discontinus. Vous voyez? Et à partir de ça, on va être très trigramme. Hein? On va avoir donc le yang absolu, ça va être trois traits, le yin absolu, trois traits discontinus, puis avec toutes les variantes, vous voyez, on va avoir le trait deux, vous voyez, le trait yin, un trait yang, alors on va l'appeler la montagne, on va l'appeler le tonnerre, on va l'appeler la foudre, on va l'appeler, vous voyez, le lac, etc. Ça, c'est le trigramme. À partir du trigramme, on va en mettre deux et on va créer l'hexagramme. Et l'hexagramme, c'est 64 possibilités. Le trigramme, c'est 8. 8 fois 8, 64. Et à partir des 64, vous avez des possibilités infinies. Donc, vous voyez, c'est un jeu mathématique, naturellement, dans la culture chinoise. Hein? Et donc, c'est pas éloigné. Il fallait que Tendai soit chinois. Il fallait qu'il ait une culture. D'ailleurs, un petit peu... Hein, il était chinois, mais aussi, il avait un esprit mathématique, on peut dire, ou informatique. Ça, c'est important. Donc, il va avoir l'idée de regrouper les 10 niosés avec les 10 états qui n'existaient pas, les 10 états. Il y avait les 6 voies d'un côté, les 4 de l'autre. Il met tout ensemble. Et ça fait 10. Parce que 10, pour un chinois, c'est extrêmement parlant. 10, c'est le symbole de la croix. C'est le trait horizontal et le trait vertical. Hein?
Ça, c'est 10.
Ça, c'est 10 en chinois. C'est-à-dire, c'est vraiment l'unité de l'horizontalité et de la verticalité. Hein? Et vous avez un idéogramme qui est l'idéogramme de vertu. Vous avez la clé de l'homme ici. Vous avez le chiffre 10. Vous avez l'œil ici. Et en dessous, vous avez le cœur. Hein? Donc là, la clé de l'homme. L'homme qui a 10 visions qui se basent sur le cœur. C'est T. Hein? En chinois, T, la vertu. Le Tao Te King, deuxième idéogramme, vous avez le Tao, le Te et King. King, c'est le classique, le livre classique. Hein? Donc là, on a les divisions. Les divisions, savoir, on a 10 visions du monde différentes, mais pour qu'il y ait vertu, il faut que ça repose sur le cœur, c'est-à-dire sur notre humanisme. Donc c'est pour ça que le chiffre 10 dans la symbolique chinoise est si important. Vous avez deux chiffres extrêmement importants en chinois. Hein. Vous avez le chiffre 10 et le chiffre 3. Hein. Et sans zen, zen, vous allez avoir, si vous voulez, ce trait supplémentaire pour faire 1000. Au-dessus du 10, vous avez ce trait-là. Hein, qui va donner 1000. Donc, vous voyez, déjà dans... Pour bien comprendre Ichinen Sanzen, on va regrouper le concept de trois qu'on retrouve partout, hein, les trois augustes et les cinq souverains, etc. etc. Hein, donc le yin, le yang et ben, l'homme entre ciel et terre, ça fait trois. Trois signifie l'homme, en fait, aussi. C'est la verticalité. C'est être entre ciel et terre. Vous avez l'idéogramme de l'empereur, par exemple, qui va être le chiffre 3, avec un trait qui relie le ciel, la terre en bas, et l'homme au milieu. Hein? C'est le chiffre 3. dans Ichinen Sanzen, avec l'idéogramme Zen, Nen, pardon, hein, vous êtes dans la psychologie aussi, dans la psychologie des profondeurs. Hein. C'est intéressant parce que l'instant, hein, et le cœur, c'est vraiment une espèce de synchronicité. Qu'est-ce qui arrive dans mon état psychique? Qu'est-ce qui va émerger de mon état psychique, de mon état mental? Alors, ce qui est intéressant, c'est à la suite, les bodhisattvas Nagarjuna et Vasubandhu en avaient connaissance, mais ne le révélèrent pas. Hein? Seul le grand maître Tsiyi l'adopta et le conserva sans cesse à l'esprit. Donc, Nagarjuna et Vasubandhu, hein? Nagarjuna, c'est une réflexion sur le vide. Particulièrement, donc ça c'est la première partie de Shōhō Jisō, hein, sur le concept de Jisō notamment, hein, et le vide. Hein. Vasubandhu, on va retrouver les. Avec Asanga, on va retrouver les consciences plutôt. Hein. Donc on voit bien que dans cette recherche, on a une forme de psychanalyse, on pourrait dire, qui est mise en place déjà à l'époque, enfin, dans la pratique bouddhique. Il y a quelque chose qui a à voir, en tous les cas, avec la pensée analytique de la psyché. Alors la suite. Le principe d'Ichinen Sanzen découle de l'implication réciproque des 10 mondes états. Hein, ça, voilà. On retrouve le, donc Jigai Gogu, donc 10 états dans chaque état contient 10 états. Les écoles Osso et Sanoran ne parlent que de 8 états. Alors bon, c'est sûr. Hein. Ignorant qu'il y en ait, il y en a 10, à plus forte raison, ignorant le principe de leur implication réciproque. Oui, c'est très juste ce que dit Nichiren. C'était figé. Hein, ces systèmes-là, bon, n'étaient pas. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore dans la pensée chinoise. La pensée chinoise est particulièrement taoïste, extrêmement dans le mouvement et la fluidité. C'est pour ça qu'elle va enrichir beaucoup. Le bouddhisme, vous avez un texte magnifique de Mishima, je ne sais pas si c'est dans le Vatarun, c'est le temple de l'aube, c'est le troisième livre des
cinq.
Voilà, c'est ça, qui est absolument magnifique, c'est quatre je crois, c'est la terre de fertilité ou je ne sais plus. Enfin, le temple de l'aube, il y a une vision, il explique bien que la pensée indienne est fondée sur le concept de mousson ou pas de mousson. Donc, il n'y a que deux saisons. Donc, c'est pour ça que leur vision, finalement, du karma, extrêmement... ça tombe comme ça, il n'y a pas de subtilité.
Binaire.
Voilà, c'est très binaire. Et alors que la pensée chinoise est fondée sur les quatre saisons, ce qui est assez proche de l'Occident de ce point de vue-là. Et à ce moment-là, bah c'est un peu moins froid, un peu moins chaud, un peu plus humide, un peu plus sec. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Et donc, il dit que c'est comme le courant d'un fleuve, hein, ou d'un cours d'eau par rapport à... qu'il y a de l'eau ou il n'y en a pas. Donc, les écoles qui sont trop liées à la pensée indienne ne peuvent pas s'adapter. Vous voyez, le bouddhisme trop imprégné de pensée indienne et qui vont être trop, d'une certaine façon, dans un intégrisme. Ils ne vont pas s'adapter à la culture chinoise. Entre la culture indienne et la culture chinoise, vous avez un océan, vous avez un fossé bien plus grand que... entre l'Inde et l'Europe. On est beaucoup plus proche des Indiens dans notre conception que les Chinois, par exemple. Mais vraiment, mais il y a vraiment un fossé culturel, ce qui n'empêche pas Bodhidharma, par exemple, de partir à Shaolin avec tout un groupe de centaines de médecins indiens, des pratiquants d'arts martiaux, de phytothérapeutes, d'astrologues, etc. Hein, quand il y a l'arrivée du bouddhisme via Bodhidharma, mais d'autres groupes aussi, hein, il y a Kumarajiva, il y en a plein d'autres. Mais c'est vraiment la pensée chinoise extrêmement subtile par rapport. La pensée indienne qui est une pensée extrêmement philosophique, méditative, mais à un point tellement extrême qu'on ne vit plus le quotidien. C'est-à-dire que ça ne leur pose aucun problème de se mettre sous un pipal pendant 200 jours, hein, et de manger un petit peu de racines et tout. C'est ce que fait Shakyamuni. Hein. Loué soit-il. Hein. Donc, mais pour les Chinois, c'est pas pensable. Pour un taoïste, c'est pas pensable. Hein. Il y a plein d'autres choses qui sont pas pensables d'ailleurs. Hein. Comme les Chinois ont énormément de problèmes avec la chasteté. Hein. Pour eux, au niveau des ordres monastiques, ça va pas le faire du tout. Hein.
Est-ce que dans le taoïste,
oui, parce que ce sont les taoïstes qui ont fait venir les bouddhistes. Donc c'était pas alors et après bon ça va devenir même des grosses rigolades hein. C'est-à-dire que bon il y a des préceptes mais on les suit si on a envie hein. Ça ils ont vraiment compris ça très vite qu'ils faisaient comme ils voulaient d'ailleurs le pauvre Kumarajiva comme l'empereur voulait qu'il y ait beaucoup de traducteurs comme lui. Il l'a obligé à être dans un gynécée ouais. Et à se marier ouais. Du matin au soir pour qu'il y ait beaucoup de successeurs.
Des enfants. Ouais, il l'a marié de force. Ouais.
Il l'a marié de force, mais pas avec une seule femme. Hein. Il fallait produire. Hein.
Il était moine,
Kumarajiva. Il était moine, oui, bien sûr. Mais il y en a qui sont mariés, hein. C'est comme ils veulent. Hein. Non, voilà, c'est ça qui est intéressant. Hein, les enseignements des écoles Kusha, Jojitsu et Ritsu s'appuient sur les sutras Agama. Bon, donc ça, c'est le Hinayana. Ils ne prennent en compte que les six mondes d'État. Vous voyez, c'est ce qui existait à l'origine. Les six conditions de vie les plus basses, ignorant les quatre autres mondes d'État, hein, c'est-à-dire les quatre nobles sentiers. Hein. Ils affirment qu'il n'y a qu'un seul Bouddha dans les 10 directions. Et ne dévoile pas qu'il existe un Bouddha pour chaque direction. Oui, c'est-à-dire, c'est une vision extrêmement figée, hein, qui n'est pas adaptée à la pensée chinoise. D'ailleurs, les Chinois, alors c'est très drôle parce que les statues de Bouddha, là c'est aussi ça, c'est un sacré truc. Les Indiens n'avaient aucune idée pour représenter un Bouddha. C'était pas leur truc. Les Indiens, eux, ils faisaient un arbre et puis ça y est, pour eux, ça évoquait le Bouddha. Ou la trace de ses pieds, ou la feuille de pipal, ou vous aviez la roue du Dharma, vous voyez. Mais pas de statue de Bouddha. Les Grecs arrivent, eux, ils disent, faut m'expliquer un petit peu. Et c'est eux qui ont fait les premières statues de Bouddha.
Les Grecs.
C'est les Grecs. Ouais. En prenant l'exemple d'Apollon. C'est pour ça qu'on retrouve les drapés, des robes grecques extrêmement... qu'on retrouve. Si vous voyez, moi j'ai visité le musée du Gandhara, c'était à Lahore, au Pakistan, et c'est étonnant. C'est vraiment devant des statues grecques. Hein. Ce qui est étonnant aussi, c'est que ces statues... qui sont pas du tout faits pour les Indiens, s'il n'y avait pas eu les statues de Bouddha, les Chinois n'auraient pas accepté le bouddhisme. Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de concret. Voilà un type en méditation, qui a un petit sourire, avec les yeux un peu comme ça, mi-clos, etc. Ah, voilà, bon, la méditation, oui, c'est ça. C'est représenté. Hein? Hein? Ils affirment qu'il n'y a qu'un seul Bouddha dans les 10 directions et ne dévoilent pas qu'il existe un Bouddha pour chaque direction. Ils ne font évidemment pas la moindre allusion au principe selon lequel tous les êtres sensitifs possèdent l'état de Bouddha. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment le Sutra du Lotus qui l'affirme. Hein? Avant, c'est, il y a le Bouddha, puis il y a le reste. Hein? Donc, ce que je veux dire, c'est que la pensée taoïste, qui est extrêmement dans la fluidité et le mouvement, ne peut pas supporter que les choses soient figées. Hein? Pour eux, quand on fige quelque chose, c'est de la maladie. Il faut que ça bouge. Hein? Et ça, ils vont... Donc, Tendai, que ce soit Tendai, mais d'autres aussi, ils vont reprendre le Sutra du Lotus, en tirer ce côté, et aller chercher ce côté, cette quintessence, si vous voulez. Et donc, le principe d'Ichinen Sanzen est là pour nous montrer le mouvement de la vie dans sa réalité. Et le mouvement aussi psychique. Alors, effectivement... Une fois que ça a été fait, tout le monde va essayer de se réapproprier le truc. C'est ce que dénonce Nichiren. Alors bon, il dit la même chose se produisait en Chine. Avant l'introduction du bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme étaient flous et puérils. Ça, bon, c'est sa vision des choses, mais il n'avait pas lu déjà le Tao Te Ching, à mon avis. Hein. Mais sous la dynastie des Han postérieure, le bouddhisme fut introduit en Chine et lança un défi aux doctrines du pays. En fait, non. C'est les taoïstes ont fait venir. Les premiers à avoir traduit les sutras, c'est les taoïstes. Après, il y a eu une... Mais ça a pris 2-3 siècles avant d'avoir une véritable traduction bouddhiste des textes. Ça a pris du temps. Hein? Si ça... On lit dans le 5e volume du Makashikan, « De nos jours, nombreux sont les moines démoniaques qui rompent leur vœu pour retourner à la vie laïque. Craignant d'être punis pour leurs actes, ils adhèrent au principe des taoïstes. Dans l'espoir d'acquérir gloire et profit, ils vantent exagérément les mérites de Lao Tse et de Chuang Tse, s'appropriant les concepts bouddhiques pour les intégrer aux écrits taoïstes. Ils dénaturent ce qui est noble pour l'incorporer à ce qui est vulgaire, ils détruisent ce qui est élevé et le ramènent vers ce qui est bas, s'efforçant de mettre les deux au même niveau. » C'est sûr qu'il y a, beaucoup de... Il y a beaucoup de confusion, hein, c'est sûr. Ouais. C'est, on retrouve, hein, dans le Zen, il y a beaucoup de confusion aussi entre taoïsme et bouddhisme. Alors, quelquefois, le mélange peut être excellent, d'autres fois, il l'est moins. Hein. Voilà, donc on arrive à l'esprit est semblable à un peintre habile. Donc ça, c'était la page que je vous avais donnée la dernière fois. Hein, donc, comme quoi.
Ça commence de l'autre côté, à
dire. Ah oui, c'est ça. Puis, en tant que laïc, il s'emploie à détruire les enseignements du bouddhisme. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Dans le sens où c'est une attaque en règle contre Lao Tse. Hein? Mais, alors, c'est intéressant. Le même processus se produisit au sein même du bouddhisme, introduit en Chine durant l'ère Yuping. Sous la dynastie des Han postérieure, le bouddhisme remplaça peu à peu, comme doctrine officielle du pays, les enseignements confucianistes et taoïstes. Mais des schismes se créèrent au sein de la doctrine orthodoxe, aboutissant à ce que l'on appela les trois écoles du Sud et les sept écoles du Nord. Ça, c'est le bouddhisme zen, hein, le Chang. Hein. Sous les dynasties Shen et Sui, cependant, le grand maître Qi Yi triompha de ces diverses écoles pour rendre au bouddhisme son but originel, celui de sauver tous les êtres vivants. C'est sûr que l'influence de Qi est magnifique, hein, et que, justement, par sa pensée, il va unifier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bouddhisme du Sutra du Lotus, c'est une pensée fédérale, fédérative. C'est jamais fondé sur l'exclusif ou l'exclusivisme. Hein. C'est toujours rechercher, pas le consensus, hein, mais à aller à l'essence même des choses pour être le plus large possible. Alors, ensuite, dès l'origine, les écoles Kegon et Shingon, donc ça c'est le bouddhisme ésotérique, hein, furent tous deux des écoles provisoires basées sur des sutras provisoires. Hein, c'est-à-dire, bon, en gros, il se base surtout sur le Dainichi Nyorai, hein, ses Verokana. Hein, qui a inspiré le Gonzon de Nichiren, hein, quand même. Hein. Donc, parce que faut pas oublier que Nichiren a été au Mont Koya, hein, et qu'il a séjourné au Mont Koya. Il a rencontré Il a même dû pratiquer certainement le bouddhisme ésotérique. Hein. Voilà. Mais Shubha Karishimba Shia et Vajrabodhi, qui introduisirent les enseignements ésotériques en Chine, s'approprièrent le principe d'Ichinen Sanzen, de Chi-Yi, pour en faire le cœur des enseignements de leur école, tout en y ajoutant la pratique de Mudra et de Mantra Dharini, et prétendirent que leurs enseignements surpassaient ceux de Chi. Bon, ça, quand on se fait copier en Asie, c'est qu'on est bon. Hein. Hein, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon,
Mudra, c'est quoi les principes?
Les mudras, c'est le saut, ça veut dire. Mudra, c'est les gestes que l'on fait en même temps qu'on lit le mantra.
Ah, hein. D'accord.
Et d'ailleurs, dans le j'ai vu les pratiques des moines Tendai, sur le mont Iyei, et ils lisaient les mantras avec les mudras. C'est très beau d'ailleurs. Hein. Et donc, il récite des sons, c'est en sanskrit, hein, je pense. C'est c'est une langue, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, c'est des pratiques en méditation. Et c'est très beau parce que quand on est au mont Iyei, il y a une espèce de grande esplanade à l'intérieur du temple. Et quand tu vas au bout, tu vois le petit monastère qu'avait construit Dengyo, qui est une cabane, mais qui est recouvert par le grand monastère du mont Iyei. Mais c'est au-dessus d'une petite caverne.
Hein. C'était les moines guerriers, là, hein, c'est le mont Iyei. C'était des...
Alors, c'est devenu, par la suite, 12e, 13e siècle, c'est devenu des moines guerriers. C'est ce qu'on appelle les combats de la montagne, dans le Heike Monogatari. Le dit du Heike, hein, justement, ces luttes entre Heike et Minamoto, on voit bien qui se transforment en moines guerriers. Mais à l'époque de Dengyo, donc c'est Dengyo, c'est quoi, c'est 6e, 7e siècle, je ne sais plus. Hein, c'est à peu près. J'ai plus. L'idée est déjà Gishin. C'est un successeur. Là, c'est le 9e siècle. C'est quoi? C'est le 6e patriarche de Dengyo? Non. Je crois qu'il est. Dengyo, ça doit être 650. Il est contemporain de Kobo Daishi. On est dans ce qu'on appelle la période Heian. Hein, Dengyo. C'est intéressant ce qu'il dit sur Saicho. Donc, son désir, avant même de se rendre en Chine, c'est de retourner à l'antique doctrine de Nagarjuna en élucidant les arcanes des quatre écoles, hein, donc le bouddhisme ésotérique, le zen, le sutra du lotus et... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les quatre écoles. C'est pour ça que Saicho ou Dengyo est une référence pour la plupart des bouddhismes, en dehors du bouddhisme ésotérique. Hein, il est très souvent à la base. 812, oui, c'est ça, 9e siècle. Hein. C'est pas très important. On est dans la période Heian. C'est une période de paix, donc ça veut dire c'est une période où la peine de mort est abolie. Hein. Il n'y a pas de peine de mort. Donc c'est vraiment, pour les Japonais, c'est vraiment le. Après l'introduction du bouddhisme, on dit que Shotoku Taishi, l'empereur, Shotoku, C'est fondé sur le Sutra du Lotus.
Ouais, pour faire la constitution.
Pour faire la constitution du Japon, première constitution
La première
au monde.
Constitution du Japon, ouais, a été construite sur le
Lotus. Tout à fait, mais première constitution aussi, il me semble.
Non, j'avais eu ça, peut-être.
Oui, oui. Je crois que c'est une des premières constitutions, en tous les cas. Et il n'y a, pas de peine de mort. Hein. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est pour dire que quand on va arriver à l'époque de Nichiren, avec les moines guerriers et les guerres entre Taira et Minamoto, on est complètement dans le contraire. Hein. Là, on va pratiquer couramment. Et là, les gens disent, on est rentré dans ma peau. Hein, dans cette époque terrible. Donc, pour en venir à notre propre pays, le Japon, les enseignements du Kyegon et des autres écoles, voilà, c'est l'esprit, c'est à partir de l'esprit est un peintre habile. Hein. Les enseignements du Kyegon et des autres écoles comprises dans les six écoles de Nara furent introduits avant le Tendai et le Shingon. Donc, vous avez les écoles de Nara, donc les six écoles du Theravada, du petit véhicule, si vous voulez, du Hinayana. Ça, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme de Nara. Ensuite, vous avez le bouddhisme chinois avec le Tendai et le Shingon, bouddhisme ésotérique ou bouddhisme du Sutra du Lotus. Tendai, c'est le Sutra du Lotus. Shingon, c'est Kobodaishi. C'est le bouddhisme ésotérique que vous connaissez sous le bouddhisme. C'est-à-dire, c'est une transmission de personne à personne qui est donc adaptée à la personne et qui ne doit pas être divulguée. Hein. Donc, de ce point de vue-là, et les pratiques sont ésotériques. C'est-à-dire, elles ne sont pas transmissibles. Alors que le bouddhisme du Sutra du Lotus est complètement différent. Il est dans l'accessibilité. Et le concept, si vous voulez, la grosse différence entre les deux, c'est que dans le bouddhisme ésotérique, vous êtes dans ce qu'on appelle le bouddhisme, c'est-à-dire c'est l'éveil progressif, qui va apparaître progressif, et c'est un entraînement de maître à élève, mais personnel, qui n'est pas transmissible à d'autres. Vous voyez ? Donc il est progressif, etc. Par exemple, Mathieu Ricard, il a son maître, etc. Il va toujours recevoir ses enseignements. S'il y a plus contact direct, ça va être extrêmement difficile dans la progression, dans la pratique du bouddhisme. Dans le bouddhisme de Sutra du Lotus, on est fondé sur le subitisme, ça s'appelle. C'est-à-dire l'éveil immédiat. Donc il est accessible à tous et donné à tout le monde. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va être tous Bouddha, mais potentiellement, on l'est. Hein, c'est vraiment une grosse différence conceptuelle, ce qui fait que dans le bouddhisme du Sutra du Lotus, les femmes peuvent devenir Bouddha. Enfin, théoriquement. Hein. C'est ça, c'est les hommes mauvais. C'est-à-dire que il faut voir que dans d'autres formes de bouddhisme, bon, ils ne le disent plus aujourd'hui, mais ils le disaient à l'époque. Hein, si on est une femme, ah bah, faudra attendre la prochaine incarnation, parce que pas de chance. Hein. Hein, donc déjà, la moitié de l'humanité ne pouvait pas être Bouddha. Ensuite, si on était un homme mauvais, oh, hein, c'était même pas la peine d'y penser. Si on était un mécréant, c'était pareil. Donc, il y avait toute une catégorie. Alors, finalement, quand vous faisiez le compte, qui pouvait devenir Bouddha ? Ben, ceux qui avaient suffisamment d'argent pour être entretenus dans un monastère, hein, qui pouvaient engraisser à leur tour, et qui pouvaient faire 10 heures de méditation par jour. Ce qui ne faisait pas énormément. Hein. Donc, c'est ça. Le caractère universel du Sutra du Lotus est extrêmement important. Et en fait, c'est derrière tout cet argumentaire qui n'est pas toujours très heureux, mais qu'il faut bien remettre Nichiren dans son contexte, dans le XIIIe siècle, extrêmement perturbé, où on ne reconnaît rien, c'est la confusion. Ce qu'il veut, il veut montrer, c'est la pertinence du Sutra du Lotus par rapport aux autres écoles, par rapport à la confusion des autres écoles. Hein.
Donc tout son argumentaire du Kaimokusho repose là-dessus. Quand le grand maître Saicho, donc Dengyo, qu'on appelle Dengyo, apparut au Japon, il ne se contenta pas d'exposer les erreurs des six écoles de Nara, mais établit clairement que les écoles Shingon avaient volé les principes du Sutra du Lotus exposé par Chi-Yi pour en faire l'essentiel de sa propre doctrine. Le grand maître Saicho exhorta les maîtres des autres écoles à renoncer à leurs conceptions et interprétations arbitraires pour n'examiner les choses qu'à la seule lumière des écrits eux-mêmes. Ça, c'est très important. À la seule lumière des écrits eux-mêmes. Parce que la même chose arrive pour les écrits de Nichiren. Vous avez ceux qui vous donnent la bonne interprétation du texte. Je ne citerai personne. Mais, c'est-à-dire qu'on a... Moi, il y a un moment, c'était il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, il faut lire les écrits de Nichiren tels que c'est écrit. Pas tel qu'on me dit qu'il faut que je le lise, parce que c'est une aberration. Je peux remettre en question ce texte, mais je ne peux pas dire j'ai une grille de lecture qui est différente. Et dès que je vais lire Sutra du Lotus, je dois traduire par Namumyo Rengekyo ou autre chose, vous voyez. Et que dès que je vais lire Sutra du Lotus, je dois lire Gonzon. Vous voyez, attention, on arrive à une grille de lecture qui dénature complètement le texte originel. Et c'est ce qui est intéressant. C'est que Nichiren lui-même le dit à la seule lumière des écrits eux-mêmes. C'est-à-dire que, et là, c'est de la démocratie. Pourquoi ? Parce que on a accès à la lecture, on a accès à l'interprétation que moi je veux donner. Que chacun d'entre nous, on va se réimprégner du texte, on va reposséder le texte. Et ça, c'est très important. Sinon, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le clergé qui nous dit comment il faut lire la Bible, par exemple. On retombe dans les professionnels, ceux qui savent et qui parlent à ceux qui ne savent pas. La France d'en haut, la France d'en bas. En conséquence, il parvint à vaincre en débat 8 moines éminents des 6 écoles de Nara. Oui, ça c'est absolument exact. Puis 12 moines, puis 14, puis... plus de 300 parmi lesquels Kyukai. Alors ça, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Kyukai, c'est Kobo Daishi. Alors, ils étaient sur le même bateau quand ils sont partis en Chine. Apparemment, ils ne se sont pas entendus. Alors, c'était... Alors, dans la vision de Saicho, je ne sais pas si je retrouverai les quatre écoles, mais... il y a l'idée, si vous voulez, de fédérer les quatre formes principales du bouddhisme, dont le bouddhisme zen, le bouddhisme ésotérique, le bouddhisme du Sutra du Lotus et peut-être l'amidisme. Ça doit être l'amidisme. Ça, c'est l'idée de Saicho. Donc, dans le bouddhisme Tendai, vous avez des pratiques du bouddhisme ésotérique que j'ai vues au Mont Yehi. Ça existe. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Mais il ne faut pas... il faut que ça gravite autour de l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus, comme toujours. C'est pas de l'exclusivisme, parce qu'après on a dit oui, Nichiren c'est de l'exclusivisme. C'est une mauvaise lecture, en tous les cas c'est pas celle que fait Nichiren Shu, au contraire. Il y a cette volonté de rassembler, mais... il faut, c'est-à-dire à la fois de la clarté, éviter la confusion, et en même temps rassembler. Ce qui n'est pas un exercice facile. Donc, bon, apparemment, ils ne se sont pas entendus. Kobodaishi, c'est son nom de défunt, donc on dit plutôt Kyukai. Et Saicho. Alors bon, lui, c'était un moine Tendai, Nichiren. Là, il est encore, même s'il se démarque à partir du moment où il donne au Daimoku, Namumyo Rinnekyo, il est quand même Dosenbo est un moine Tendai, hein. Son maître Dosenbo est un moine Tendai. Donc, il proclame la supériorité du Tendai. Le grand maître Saisho établit aussi clairement que les fondateurs des diverses autres écoles bouddhiques en Chine, grâce à leur respect de la doctrine du grand maître Chi-Yi, ne commirent pas d'erreur de s'opposer aux véritables enseignements du bouddhisme. Ne commirent pas l'erreur de s'opposer aux véritables enseignements du bouddhisme. Donc, c'est-à-dire que avec Chi-Yi en Chine et avec Saisho au Japon, on a une espèce de, à ces époques-là, de bouddhisme fédéré. Hein. Quel que soit, il y a une unité du bouddhisme. Ce que Nichiren Shu recherche aussi. Hein, c'est pour ça qu'on fait la pratique des trois trésors, hein, du Bouddha, du Dharma et du Sangha, les cinq vœux de Bodhisattva, donc ça pour le Theravada, pour le Mahayana, c'est les quatre vœux, hein, pour le Sutra du Lotus, c'est Oben Juryo. Donc, tout cela marque cette idée, cette volonté de rassembler. Alors, je vous avais parlé du bouddhisme Theravada ou Hinayana, ce qu'on appelle les écoles de Nara. Hein. Ensuite, il y a le bouddhisme chinois Kegon, enfin Shingon plutôt, et Tendai. Et le bouddhisme japonais, ça va être le bouddhisme Zen, le bouddhisme d'Amidisme, et le troisième, l'Ichiren, c'est-à-dire du Sutra du Lotus. Ça, c'est la constitution du bouddhisme japonais, ce qu'on appelle les écoles de Kamakura. Donc, vous avez trois capitales, Nara pour le bouddhisme Hinayana, deuxième capitale, Kyoto, le bouddhisme chinois, Kamakura, capitale des samouraïs, hein, pour le bouddhisme japonais. Puisque le haut siège du Zen, Rengakuji, hein, qui est au nord de, qui est à Kita Kamakura, hein, et c'est le siège du bouddhisme Rinzai. Hein. Et Soto, je ne sais pas si Soto, je crois que c'est Kyoto quand même. Il me semble que c'est Kyoto, avec notamment... L'Anarakuji, où il y a les pierres. Hein, c'est les, voilà. Bon, il faut bien comprendre ça pour comprendre le Kaimokusho, trois capitales avec trois formes de bouddhisme différents. Et on va d'abord d'un bouddhisme réservé vraiment à une élite aristocratique à Nara. C'est uniquement la caste impériale qui peut pratiquer le bouddhisme, hein, comme les Sogas, c'est quelques familles comme ça aristocratiques, qui... l'empereur bien sûr, Shotoku Taishi, et la cour si vous voulez, c'est un bouddhisme de cour, le bouddhisme de Nara. Le bouddhisme chinois de Kyoto, c'est déjà beaucoup plus, ça va toucher la bourgeoisie. Ce n'est pas que l'aristocratie, mais aussi les marchands prospères. Hein. Et le bouddhisme japonais de Kamakura va vraiment toucher le peuple. L'amidisme va surtout toucher les paysans. Hein. Il suffit de réciter Namo Amida Butsu. Donc ça, puis alors bon, c'est très pragmatique, ça va bien avec l'esprit paysan. La caste samouraï, donc des guerriers, va pratiquer le zen, hein, parce que ça les empêche pas de tuer. Faut bien penser que ça, c'est que il y a une distorsion du principe de non-violence du bouddhisme avec le zen. Bon, faut dire que déjà avec la montagne et les moines guerriers, ils avaient pris leur mesure. Et chez Nichiren, on est vraiment dans le bouddhisme du Sutra de Lotus, dans un bouddhisme qui, sociologiquement, va prendre des gens de l'aristocratie, de la bourgeoisie et du peuple. Hein? Donc il y a le plus grand éventail possible. Il y aura des samouraïs, comme Shijo Kingo. Hein? Il y aura même des aristocrates, puisqu'il y a des princes qui vont pratiquer le bouddhisme de Nichiren. Et les gens du peuple aussi, des gens très simples. Alors, bon, c'est magnifique, par exemple, les Abu Tsubo à l'île de Sado sont des gens très simples. Hein. Le pêcheur qui a recueilli Nichiren à Izu, qui a gravé cette statue de Shakyamuni, dont Nichiren ne quittait jamais cette statue. Dès qu'il pratiquait, il mettait cette statue de Shakyamuni pour pratiquer. Il est mort aussi, il a demandé qu'on apporte à sa mort cette statue de Shakyamuni. Donc c'était vraiment très important.
Elle existe toujours ?
Je ne l'ai pas vue. La dernière fois, mon voyage au Japon, j'étais à Ikegami, là où il est mort. Mais alors... le problème, c'est que là, Starabini serait bien parce que ces genres de choses, on peut aller dans le lieu même où il est mort. Ce sont des temples maintenant, mais bon, tu rentres, tu sors, tu vois des choses, mais tu ne comprends pas toujours. Alors, j'ai eu de la chance à Kamakura, je suis tombé sur un jeune moine très sympa qui a pris son temps, qui m'a fait visiter et tout. Mais ce n'était pas toujours le cas à Ikegami, non. Ikegami, c'est une grande. Université du bouddhisme de Nichiren, qui est d'ailleurs, même les moines de Nichiren Shoshu vont dans l'université Nichiren Shu pour faire leurs études en tant que moines. Bon, je crois qu'on a déjà fait pas mal.
Une heure.
Quelle heure?